Bonsoir à tous, chers amis. Je suis heureux d'être de retour dans une des nombreuses mini-familles qui m'accueillent gentiment d'année en année. Je me réjouissais à la pensée d'être de retour parmi vous. Nous allons lire ensemble plusieurs passages dans le Nouveau Testament, et je vous encourage, j'espère que ceux et celles d'entre vous qui connaissez Jésus-Christ, vous avez pris votre Bible avec vous, et que nous allons lire ensemble, que je ne serai pas le seul à travailler ce soir. C'est très frustrant quand le conférencier est le seul qui travaille. On va travailler ensemble, n'est-ce pas? Dans Romains au chapitre 12, tout d'abord, l'épître Romains au chapitre 12, le verset 5 simplement, nous reviendrons sur les autres versets entre demain et dimanche matin, Romains 12, le verset 5 qui dit ceci, c'est une affirmation, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Nous sommes tous membres les uns des autres. Ensuite, dans la lettre de Paul aux Colossiens, lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er, Colossiens, chapitre 1er, tout d'abord les deux premiers versets de cette lettre, c'est son introduction, Paul, apôtre de Jésus-Christ, envoyé de Jésus-Christ, missionnaire de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ, qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Et au verset 12, Paul continue ainsi, donc Colossiens 1, verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a arraché littéralement à la puissance des ténèbres et nous a transféré dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le rachat, le pardon des péchés, la remise de nos dettes. Nous sommes libérés. Le péché est abandonné. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, et ennemi par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche, si du moins vous demeurez fondé, inébranlable dans la foi, sans vous détourner ou sans vous laisser déporter, loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre, ou plutôt serviteur, c'est moins pompeux que ministre. L'Église locale, une communauté de service. Nous avons devant nous un programme de 4 temps de réflexion. Nous allons consacrer cette heure de ce soir à poser notre sujet. C'est un grand sujet. Inutile de souligner dès ce soir que nous n'en ferons pas le tour en un week-end. Nous soulignerons un certain nombre de considérations importantes, fondamentales, en ce qui concerne le service dans l'Église et l'exercice des dons. Mais c'est une étude qu'il faudra poursuivre dans le cadre de nos communautés, vous le faites certainement. Mais nous allons ce soir poser des bases, essayer de brosser une toile de fond. Si nous entrions de plein pied simplement dans cette communauté de service, nous ne commencerions pas par le juste commencement. Nous allons ce soir évoquer l'Église comme une communauté en Christ. Ça, c'est la base. L'Église locale, une communauté en Christ. Nous avons entendu, il y a un instant, cette affirmation de Paul, dans Romains 12, au verset 5. Nous formons un seul corps en Christ. Dès que l'apôtre Paul veut aborder la question des dons, de l'exercice des dons, du service dans l'Église locale, il donne tout d'abord le « là », n'est-ce pas ? Une note de base très importante. Nous formons un seul corps en Christ. J'ai sous les yeux une liste de possibilités qu'a l'Église de présenter une mauvaise image d'elle-même. Et l'auteur de ce texte dit que l'Église peut être du style musée, où l'on ne va qu'en spectateur. Et j'espère que personne d'entre vous ce soir n'est venu uniquement qu'en spectateur. C'est pas ça l'Église. Il existe aussi l'Église style coiffeur. Ça, c'est l'Église dans laquelle on ne fait que couper les cheveux en 4. Alors, durant ce week-end, nous ne couperons pas les cheveux en 4. Il y a des domaines dans lesquels nous serons profondément respectueux des différences, quand il ne s'agit pas des questions essentielles. Il est des églises du style restaurant. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Les églises du style restaurant, ce sont les églises dans lesquelles on ne va que pour se bien nourrir. On va pour pomper. Certes, il est important d'avoir un bon enseignement. Mais si l'enseignement ne se traduit pas dans le service, non seulement cet enseignement reste stérile, mais pire encore, il fait tourner la personne dans sa mentalité à l'orgueil. Il enfle, la connaissance en elle-même ne fait qu'enfler l'individu. Et c'est l'amour dans son expression de service qui va permettre de vivre dans l'équilibre. Il existe des églises style pompe à essence, où l'on va de temps en temps pour faire le plein. Il existe même des églises style wagon-lit, où paraît-il, seul le conducteur spirituel ne dort pas. Alors, j'espère que ce soir, on n'en sera pas là. Même si les réunions d'union du soir, en fin de semaine, un vendredi soir, c'est mortel, n'est-ce pas ? Mais nous comptons sur le Seigneur pour nous renouveler les uns et les autres, pour que nous vivions vraiment un bon moment avec lui. Puis enfin, il existe des églises locales style frigidaire, même dans le midi. Même ici, où il fait plus chaud qu'à Paris. Hein? Des églises style frigidaire où le froid glacial repousse tout nouvel arrivant. Des églises dans lesquelles on ne sait pas accueillir. Eh oui. ça existe. Des églises dans lesquelles, quand un étranger à l'église locale arrive, il a l'impression d'être un peu comme un cheveu sur la soupe. Il ne sait pas vers qui se tourner, il ne connaît personne, et chacun est attiré vers celui ou celle avec lesquels il a des affinités. Et bien entendu, il est là le pauvre, tout seul. Voilà, donc des styles d'église qui doivent déjà nous interpeller. Alors vous avez remarqué, au début de l'Épître aux Colossiens, c'est bien entendu volontairement que nous avons lu cette introduction, comment l'église de Colosse, en Asie mineure, en Turquie actuelle si vous voulez, est présenté par l'apôtre Paul. Il s'associe à un ami, un frère, Timothée, qui l'a amené à la connaissance personnelle de Jésus-Christ, un de ses enfants dans la foi, comme on dit couramment, et il s'adresse aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Les saints et fidèles frères en Christ qui sont en Arles, à Vauvert, à Istres. C'est une belle appellation, hein? Saints et fidèles frères en Christ, les saints. Les saints. Alors ici, bien entendu, il s'agit d'un adjectif qui est associé au mot frère. Mais j'aimerais quand même souligner au passage que le terme « saint » se trouve dans le Nouveau Testament un certain nombre de fois utilisé comme « nom ». Très exactement, 62 fois dans le Nouveau Testament. Et il faut savoir que sur ces 62 mentions du mot « saint » utilisé comme « nom » dans le Nouveau Testament, 61 fois, donc sur 62, il est au pluriel. Et la 62e fois, qui se situe dans Philippiens 4, 21, c'est ce qu'on appelle un singulier pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même s'il est au singulier dans la construction de la phrase, et encore, pas dans tous les textes originaux, si vous voulez, parce qu'il y a plusieurs manuscrits, même quand il est au singulier, il doit être traduit par un pluriel, parce qu'il signifie en réalité chacun des saints. Cela veut dire en réalité qu'il est, en fait, toujours au pluriel. Et je vous demande vraiment de le noter. Pour tout d'abord remarquer avec moi une chose, c'est que le saint n'existe que dans nos traditions religieuses, pseudo-chrétiennes. Le saint n'existe pas dans les Écritures. C'est toujours les saints. Toujours au pluriel. Quelqu'un dit que la Bible ne sait rien d'une religion solitaire. Dieu n'est pas d'accord avec une sorte de christianisme à la Robinson Crusoe. Les saints. Nous faisons partie d'un corps. Et l'idée donc du saint vivant dans la solitude est totalement inconnue dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, le terme « église » le laisse entendre. Nous allons poser un certain nombre de définitions et je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis très frappé dans mes déplacements, dans mes entretiens personnels, ici et là, dans les églises, de constater que très souvent on appartient à une église locale et on ne sait pas ce que c'est que l'église. Et on traîne avec soi des idées complètement erronées de ce qu'est véritablement l'église locale. Donc dans cette introduction, nous allons devoir poser un certain nombre de pierres d'angle. Pourquoi parler de service si nous ne voyons pas clair en ce qui concerne notre position, ce qu'est l'église locale. Alors, le mot église, c'est un mot grec qui a été francisé. Nous avons beaucoup de mots dans notre vocabulaire français qui sont issus de ce monde gréco-romain, l'ecclesia. Et l'ecclesia, c'est exactement le peuple de ceux qui sont appelés hors d'eux. Même ceux qui ont été appelés hors d'eux. L'apôtre Paul, inspiré par Dieu, est allé chercher le vocabulaire biblique dans le vocabulaire profane utilisé à son époque. Dieu n'a pas cru bon devoir inventer un vocabulaire tout à fait spécial. Dieu est allé puiser dans le vocabulaire de l'époque et puis il a donné aux mots de nouvelles significations enrichies par rapport à leur signification originale. Alors qu'est-ce que c'est que l'ecclésia ? Eh bien, si nous avions, vous et moi, habité, par exemple, dans la ville d'Athènes, ou à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, si nous étions nés à Athènes, si nous étions de véritables citoyens d'Athènes, comme on dit en Suisse, des bourgeois de la cité d'Athènes, eh bien, de temps à autre, peut-être devant notre porte, dans une des rues de la ville, dans un des quartiers où nous habitons, nous aurions entendu une proclamation faite par un héros. Et le héros aurait dit, voilà, je convoque les citoyens de la ville d'Athènes. Sur cette colline, là-haut, il aurait pu la montrer du doigt parce qu'elle dominait Athènes, pas très loin de l'acropole. Et je convoque ces citoyens pour assister à l'ecclésia, au cours de laquelle nous allons devoir discuter et prendre un certain nombre de décisions pour la vie de la cité. Et si vous étiez citoyen, si vous étiez né dans la ville, si vous participiez activement à la vie de la cité, vous auriez retenu l'heure, le jour de cette réunion, et au jour et à l'heure dite, vous seriez parti, vous auriez grimpé là sur le petit chemin en lacet vers cette colline qu'on appelait la Pnyx, et là, vous auriez tenu l'ecclésia. On aurait d'abord offert des sacrifices aux divinités grecques, parce qu'on ne pouvait pas tenir une assemblée sans tout d'abord invoquer les divinités païennes. Et puis ensuite, il y aurait eu toutes sortes de grandes discussions dans lesquelles vous auriez, avec moi, voté le budget de la cité, décidé si oui ou non il fallait faire la guerre à telle ou autre ville rivale comme Sparte ou que sais-je encore. Et puis une fois toutes les décisions prises, il y aurait eu de nouveaux sacrifices et chacun serait rentré chez soi pour mettre toutes ces décisions en pratique. C'était l'Ecclésia. C'était l'Église. Des hommes et des femmes qui sortaient de leur maison, qui avaient des points communs ensemble, qui avaient des objectifs communs, qui se réunissaient ensemble, qui invoquaient les divinités païennes ensemble, qui discutaient ensemble, qui s'haranguaient, qui partageaient, qui peut-être se reprenaient même mutuellement avec des autorités, et qui ensuite prenait un certain nombre de décisions et partait dans la cité et dans le pays pour les appliquer. L'Ecclésia. C'est l'Église. L'Église des hommes et des femmes qui ont été arrachés, littéralement, dit le verset 13, c'est pour cela qu'on a lu ce verset. Ils ont été arrachés de la puissance des ténèbres. Le verbe est très fort. C'est l'image d'un soldat qui est sur un champ de bataille. Subitement, il est entouré par l'armée ennemie. Plusieurs soldats de l'armée ennemie s'emparent de lui et l'attirent, n'est-ce pas, en font leur prisonnier. Et rapidement, les soldats qui sont de son camp se précipitent pour l'arracher aux mains de ces soldats ennemis. C'est le mot qui est utilisé, un mot qui était utilisé dans le langage de la guerre. Arraché. L'Église des hommes et des femmes, des saints dans la lumière, dit le texte au verset 12, délivré, arraché de la puissance des ténèbres et transféré, transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Des saints. C'est-à-dire littéralement des séparés. Des différents. Des mises à part pour Dieu. Et il y a même l'idée dans le mot saint d'être une personne tout à fait unique, tout à fait particulière. Si je fais partie du peuple des saints, avec mes frères et sœurs, j'appartiens à un peuple d'hommes et de femmes qui sont différents, qui ont des particularités, qui ne ressemblent pas aux autres, même s'ils s'habillent comme les autres. Même s'ils ont le même accent que leurs concitoyens, il y a eu un changement. Ils ont été arrachés à la puissance des ténèbres, au monde de Satan, et ils ont été transportés dans un monde de lumière. Bien sûr, cela ne s'est pas fait physiquement, mais cela s'est fait dans leur cœur, dans leur vie intérieure, dans le domaine de leur pensée. Parce qu'un jour, ils sont tombés amoureux de la personne de Jésus-Christ. Ils l'ont rencontré, et ils l'ont rencontré non pas dans un système mystique quelconque, dans une secte ou dans je ne sais pas quoi, mais ils l'ont rencontré au travers de la beauté de sa parole. Ils sont donc des saints. Un peuple d'hommes et de femmes séparés. Et ils ont soif d'être ensemble. Ils éprouvent le besoin d'être ensemble. C'est un signe de santé spirituelle que d'éprouver le besoin de se retrouver avec des frères et sœurs. Si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec des frères et sœurs dans la foi, nous allons parler du terme frère puisqu'il vient après. Mes amis, cela veut dire qu'à quelque part il y a quelque chose qui cloche dans votre santé de membre de l'Église de Jésus-Christ. Et en plus, c'est dangereux. Il m'est souvent arrivé de raconter l'anecdote que m'a rapportée un membre d'une église de Guadeloupe à Pointe-à-Pitre. J'étais en train de donner une série de conférences sur l'église locale. Je parlais de l'importance de l'église locale et à la fin de la rencontre, un croyant est venu me voir et m'a dit « Écoutez, Monsieur Decker, j'aimerais partager avec vous une expérience que j'ai vécue cette semaine, j'en ai été le témoin, parce que je pense que cela vous sera utile pour pouvoir le donner plus loin. » J'ai été impressionné par ce qu'il m'a raconté. Il m'a dit, ben voilà ce qui s'est passé cette semaine. Il se trouve que une personne dans un des quartiers là de Pointe-à-Pitre était en train de travailler avec une machette pour couper je ne sais pas quoi. Et elle a fait un faux mouvement, la machette a glissé et elle s'est retrouvée amputée d'un orteil. Alors très rapidement, on l'a transportée dans l'hôpital qui heureusement était à quelques pas de là à peine. Et lorsque cette personne a été examinée par le chirurgien, tout de suite ce chirurgien, en constatant que la blessure était toute fraîche, s'est tourné vers le blessé et lui a dit « Mais écoutez, monsieur, est-ce que vous auriez peut-être amené avec vous votre orteil ?»« Ah non. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer rapidement de récupérer l'orteil ? Nous sommes encore dans les temps. Si nous pouvons récupérer cet orteil tout de suite, puisque l'accident vient d'arriver tout près d'ici, je peux tenter de le regreffer, de le recoudre, et il y a toutes les chances pour que ça marche. » Alors, vous savez, on est parti, comme on dit, ventre à terre, hein, au galop, dans les environs, là, et puis tout de suite, la famille a posé la question, est-ce que vous n'avez pas vu l'orteil de monsieur ? Vous imaginez un petit peu. Et très rapidement, quelqu'un a dit, écoutez, ne cherchez pas, c'est absolument inutile. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, écoutez, je suis désolé pour vous, mais un chat est passé par là tout à l'heure. Un chat est passé par là. La Bible ne parle pas de chat. Ceux qui connaissent bien leur Bible savent que dans la conclusion de la première épître de Pierre au chapitre 5, il est dit que le lion. Rôde, n'est-ce pas? Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable est comme un lion. Donc l'église locale est quelque chose de très important. Et j'enfonce le clou ce soir. J'enfonce le clou parce que nous sommes en France. Et parce qu'en France, nous avons un défaut majeur dans notre tempérament et dans notre histoire, c'est celui de l'indépendantisme. Nous sommes de terribles indépendants. Et nous avons beaucoup de peine, et de plus en plus de peine, à accepter de nous identifier à une famille locale. Si je me réjouis que dans le cadre de ce week-end, plusieurs églises soient représentées ici ce soir, je ne serais par contre pas heureux si j'apprenais que vous faites ça toute l'année. Et que donc, de semaine en semaine, vous butinez ici et là, quoique les abeilles soient fidèles à leur ruche. Mais il y a trop de croyants aujourd'hui qui sont comme ces téléspectateurs qui ne font que zapper d'une émission à l'autre. Nous avons besoin de nous identifier à une vie d'église locale. L'église locale est très importante. Et puis, il nous est dit à côté du mot saint, les fidèles frères en Christ. Alors, ce qui m'a plu ce soir, c'est que tout à l'heure, le premier chant qui a été proposé, c'était « Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes sœurs et frères. » Pour une fois, les sœurs sont en tête, mais c'était pour que ça rime. Nous sommes sœurs et frères. Nous sommes une famille. Le terme « frère » figure quelque 200 fois dans le Nouveau Testament. Une famille. Il y a là une connotation d'unité, un certain climat, des rapports particuliers et privilégiés. D'ailleurs, dans Colossiens au chapitre 3, nous avons des précisions sur cette famille. Colossiens 3, 11... Dans l'église de Colosse, l'apôtre Paul le dit, il n'y a ici, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Christ est tout et en tous. Dans l'épître aux Galates, au chapitre 3, verset 28, il y aura même une petite addition, l'adjonction. Il n'y a ici ni homme, ni femme. L'Église est donc une famille révolutionnaire, absolument révolutionnaire. Que veut dire ce texte? Parce qu'il a été très mal compris. Et il existe même une littérature évangélique dans laquelle ce texte est très mal interprété. On lui a fait dire tout et n'importe quoi. Est-ce que cela voudrait dire qu'il n'y a absolument plus de différence entre les uns et les autres? Pas du tout. Pas du tout. L'Église est une famille révolutionnaire parce que certains murs sont tombés, des fossés ont été comblés, des mentalités ont changé, et notamment, il n'y a plus, dit le texte, ni grec, ni juif. Bien entendu, l'apôtre Paul écrivait dans le cadre de son époque. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Eh bien, grec, juif, ce sont des nationalités différentes. Ce sont des cultures différentes, ce sont des races différentes. Ce sont des mentalités différentes. Mais quand l'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus ni grec ni juif, Cela veut dire que ces nationalités, ces questions de culture, ces questions de race, ces questions de mentalité ne sont plus à la première place, ne sont plus un obstacle. Et ça, c'est ça ce qui fait de l'Église un organisme révolutionnaire. Nous vivons dans un monde qui est terriblement divisé. Je disais à nos enfants, il y a 2 ou 3 jours, en faisant un peu le bilan de notre été, nous disions, nous avons eu un été fantastique. Et nous avons eu un été fantastique en tant que famille de croyants engagés. Parce que tout au long de notre été, nous avons rencontré un petit peu partout dans nos voyages au travers de ce pays, des croyants très différents de nous, mais avec lesquels nous nous sommes merveilleusement entendus. Il y avait une espèce d'osmose, il y avait un partage extraordinaire. Nous gardons dans nos cœurs des souvenirs extraordinaires de cet été. Et je disais à nos enfants, mais vous savez, vous ne réalisez pas à quel point, sur ce plan-là, l'Église est différente du monde. Parce que dans le monde, on ne se mélange pas dans certains domaines. Quand vous n'êtes pas du même statut social, hein, ça pose des problèmes. Vous n'avez pas cette espèce de ciment. Oh, on oublie tout quand on est dans les arènes en train de regarder des spectacles. Oui, le temps du spectacle. Et encore, quand on ne se tape pas dessus. Mais ce qui est beau, n'est-ce pas, c'est que dans l'Église de Jésus-Christ, les Grecs, c'est-à-dire le peuple de la philosophie, le peuple qui aime raisonner, ne sont pas opposés aux Juifs. Le peuple du miracle, le peuple plus irrationnel, plus émotionnel. On ne s'oppose plus là-dessus. Ou en tout cas, on ne doit plus s'opposer là-dessus. Pourquoi ? Mais parce que vous et moi, nous sommes tous égaux au pied de la croix. Au pied de la croix de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut encore se prévaloir d'un quelconque avantage? Nous sommes tous des pécheurs graciés. Nous étions tous des hommes et des femmes condamnés. Notre seule dignité, c'était l'enfer, c'était cette séparation éternelle d'avec Dieu. Notre carte de visite n'a aucune importance aux yeux de Dieu. Même l'apôtre Paul, qui avait une carte de visite prestigieuse, le dira. Mais toutes ces choses, je les ai regardées comme de la boue. Parce que l'essentiel n'est pas là. Nous sommes donc égaux, totalement égaux devant Dieu. Dieu nous accueille tous de la même manière. Le pauvre comme le riche, le gitan, et je le dis volontairement ce soir, que ce soit un Romain manouche ou que sais-je encore, n'est-ce pas, comme vous et moi, les sédentaires du pays. Il n'y a plus de différence en Christ au pied de la croix. Nous sommes tous ses enfants, au même titre. Sans distinction, sans favoritisme, sans discrimination liée à la race, au sexe, à la classe sociale. Il n'y a ni circoncis, ni incirconcis. L'Église de Jésus-Christ est une famille révolutionnaire parce que nous sommes d'origine religieuse différente. Personnellement, je suis d'origine protestante. Certains d'entre vous sont d'origine catholique. D'autres ont peut-être flirté pendant des années avec les témoins de Jéhovah, les amis de l'homme. D'autres sont peut-être d'origine musulmane, je ne connais pas les uns les autres. Mais ce qui est merveilleux, n'est-ce pas, c'est que l'Église n'est pas religieuse en quelque sorte. L'apôtre Paul souligne que l'Église n'a rien à voir avec des questions de religion. Incirconcis, circoncis, confirmé, non confirmé, non. Nous avons dépassé cela. Parce que nous sommes entrer en relation personnelle avec quelqu'un, avec Jésus-Christ. Et parce que le problème de notre péché, de nos passions, de nos problèmes intérieurs, de tout ce qui nous nouait dans nos mentalités, dans nos attitudes, dans nos gestes, dans nos vies profondes, tout cela a été réglé à la croix. Et puis il n'y a ni barbare ni scythe. Ah, chez les Grecs, les barbares et les scythes, c'était les races inférieures. Les races inférieures, les barbares, le barbare, c'était celui qui ne parlait ni le grec ni le latin. D'ailleurs, il semblerait même que dans l'histoire, le mot barbare, dans son étymologie, serait ce qu'on appelle un peu une onomatopée, c'est-à-dire, vous voyez, un mot qui reprend un bruit. Alors, on les appelait les barbares. Ceux qui n'avaient pas un langage intelligible. Sous-entendu, ceux qui n'étaient pas cultivés. Les scythes, alors, c'était les plus barbares de tous. Les primitifs, comme on dirait aujourd'hui. La caste des intouchables. Alors, dans l'église locale, ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a pas de différence entre, il ne doit pas y en avoir, entre les doués et les non-doués. Entre ceux qui ont le certif ou qui ne l'ont pas, et ceux qui ont un doctorat. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Et je bénis Dieu de ce que, dans les 25 ou 30 dernières années de ma vie, j'ai pu rencontrer mais des gens de tous les niveaux. Et me sentir parfaitement à l'aise. Aussi bien à côté de celui qui n'a aucun diplôme, que de celui qui a des diplômes, mais qui me dépasse de 10 pieds, n'est-ce pas? Mais avec lequel il y a une communion possible, un échange possible, un partage possible, une affection, une sympathie, une collaboration possible. Les différences linguistiques, on pourrait en parler. Je suis souvent outre-mer, dans d'autres pays, là encore, les différences linguistiques, elles sont là. Elles sont sur certains plans. Un peu un obstacle, nous avons tous hâte d'être dans les cieux pour ne plus avoir de problème avec les langues, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous avez déjà remarqué comment dans les voyages à l'étranger, dans un pays dont vous ne parlez pas la langue et que vous ne comprenez même pas, vous avez remarqué pourtant la qualité des relations qui peut s'établir entre des gens dont vous ne connaissez absolument pas la langue, simplement à cause de cette relation personnelle avec Jésus-Christ. Il n'y a ni esclave ni libre. Le statut social, la classe sociale, l'ouvrier et le patron. Nous l'avons dit, les riches et les pauvres, les travailleurs et ceux qui, hélas, sont au chômage. Ce qui ne les empêche pas par ailleurs de travailler quand même. Eh bien, la Bible nous dit que dans l'Église, le statut social ne doit pas creuser un fossé. Cela ne veut pas dire qu'il y ait une abolition des différences. Qu'il n'y ait ni homme ni femme ne veut pas dire que dans l'église locale, l'homme fait tout ce que fait la femme et la femme fait tout ce que fait l'homme. Ça, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire aujourd'hui. Mais ce que l'apôtre Paul voulait dire, c'est que dans l'église locale, il ne peut pas y avoir de discrimination de sexe. Il y a une égalité entre nous tous. Et si je dis qu'il y a une égalité entre nous tous, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un exercice d'autorité et de l'autre côté des gens qui soient subordonnés. Je peux être l'égal de quelqu'un tout en acceptant de lui être subordonné, de lui être soumis. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est fondamental, ça. Il y a égalité de nature, d'essence, entre la femme et l'homme. La Bible le dit clairement. Mais il y a un ordre dans lequel il y a une subordination dans un certain climat. Alors il faut bien comprendre ces choses, elles sont importantes. Mais voyez que nous disons là, ce soir, des choses absolument révolutionnaires. Et je vous l'ai dit comme ça, de manière très brute, pour que nous puissions vérifier dans nos églises, si c'est bien le cas, parce qu'il y a des coteries faciles dans les vies d'église locales. Il y a ceux peut-être qu'on est quand même un peu tenté de mépriser. Dans l'épître de Jacques, très rapidement au chapitre 2, il est question des pauvres qu'on a tendance à mépriser dans les églises auxquelles l'apôtre Jacques s'adresse. Et de ces riches, c'est vrai qu'ils connaissent Jésus-Christ, mais quand on les voit arriver, qu'ils sont encore à 100 mètres de la chapelle, celui qui est chargé de l'accueil est déjà en train de dérouler le tapis. Vous comprenez, ils ont des sous. Il faut faire attention. Parce que c'est là que nos églises doivent être des organismes révolutionnaires. Et plus on avance dans notre monde divisé, dans notre monde de caste et d'esprit de parti, plus l'église locale devrait être révolutionnaire. Dans ce sens que chacun doit pouvoir s'y sentir pleinement à l'aise dans sa relation avec ses frères et sœurs. Parce que nous avons le même Sauveur et Seigneur, le même Dieu, la même parole de Dieu, le même Esprit, le Saint-Esprit. Nous avons été tous sauvés de la même manière, au pied de la croix. Sur cette base-là, nous n'avons pas le droit de faire de discrimination. Il faut que ce soit clair, n'est-ce pas? C'est l'enseignement des Écritures. Alors vous me direz, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce possible? C'est possible dans la mesure où vous et moi, nous sommes en Christ. En Christ. Les saints et fidèles frères en Christ. Et ça, alors, c'est une expression qui revient en Christ, dans le Seigneur, en lui. Mes amis, près de 200 fois dans les épîtres de Paul. Rien qu'ici, dans l'épître aux Colossiens, 56 fois en 95 versets. Cette épître aux Colossiens est centrée sur la personne de Jésus-Christ et sur la qualité de notre relation avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas d'abord baptiste, je ne suis pas d'abord libriste, je ne suis pas d'abord pentecôtiste. Ajoutez-y tous les istes évangéliques qui existent, et il y en a. C'est pas ce que je suis d'abord. Je ne veux pas dire que ces distinctions n'ont pas leur utilité. Je vais peut-être vous choquer. Je ne suis pas pour l'abolition de ces distinctions. Je ne suis pas pour l'abolition. Je m'appelle Maurice Decker. Vous imaginez si on s'appelait tous Decker, les problèmes que ça poserait. Mais l'essentiel, c'est que mon nom ne me pose pas de problème dans ma relation avec vous. Vous comprenez? Voyez la différence. Mais je suis heureux de porter mon nom, parce que mon nom, c'est mon identité. J'appartiens à une histoire. J'appartiens à une lignée. Et mon histoire, c'est un héritage. Et vous savez que le drame du modernisme, de toutes ces théories actuelles, c'est d'avoir voulu se couper des racines. Et on en revient maintenant. On se rend compte qu'on a fait d'énormes bêtises maintenant pendant cette dernière génération. Parce qu'on fait une crise d'identité terrible aujourd'hui. Je tiens à mon identité. Et mon identité, c'est pas la vôtre. Et c'est mieux comme ça. Mais je l'ai bien dit, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'abord baptiste ou les autres istes. Je suis d'abord en Christ. Il y a des domaines où j'ai des nuances. Je préfère, j'ai des affinités avec une direction plutôt qu'avec une autre. Et c'est vrai qu'une église locale ne peut pas être à la fois baptiste, libriste, pentecôtiste, mennonite et je ne sais pas quoi encore. C'est pas possible. Chacun de ces courants représente une histoire. mais je suis d'abord en Christ.
Et je suis heureux d'être d'abord en Christ. L'apôtre Paul se présentait de cette manière. 2 Corinthiens 12:2, je connais un homme en Christ. Je connais un homme en Christ. Pour lui, c'était l'essentiel. Je connais un homme en Christ. J'ai là les premiers mots du prince des prédicateurs, Spurgeon, lorsqu'il a célébré l'ouverture d'une de ses grandes églises à Londres en mars 1861, qu'on appelle le tabernacle. Il y a eu toute une série de réunions pendant 15 jours. Et il a dit comme premier mot, en inaugurant ce tabernacle, « Je propose que le sujet du ministère qui aura lieu dans cette maison, tant que cette tribune s'élèvera et que des adorateurs fréquenteront ces murs, soit la personne de Jésus-Christ. Je n'ai jamais honte de me dire calviniste. Je n'hésite pas à prendre le nom de baptiste. Mais si l'on m'interroge sur ma foi, je réponds, c'est Jésus-Christ, Jésus, la somme et la substance de l'évangile en lui-même, toute la théologie, l'incarnation de toute vérité précieuse et la personnification toute glorieuse du chemin de la vérité et de la vie. Une église locale centrée sur la personne de Jésus-Christ. L'église locale, c'est donc une famille en Christ, composée d'hommes et de femmes qui ont mis leur confiance en Christ. Dans ce texte, il est dit, n'est-ce pas, qu'ils ont connu la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ils ont mis leur confiance en Christ. Ils ont une relation personnelle étroite avec Christ. Ils connaissent Christ. Et je vous précise que dans le texte, par exemple au verset 6, vous avez connu la grâce. Au verset 9, rempli de la connaissance de sa volonté. Ou encore au verset 10, par la connaissance de Dieu. C'est un mot tout spécial. C'est chaque fois le même mot dans le texte original. Et c'est un mot particulier. Ce n'est pas simplement la connaissance avec le cerveau. Parce qu'il y a effectivement des gens qui connaissent la Bible et qui ont une connaissance intellectuelle ou mystique de Jésus-Christ, mais ça s'arrête là. Ça n'en fait pas des hommes et des femmes sauvés par lui. Ici, il est question d'une connaissance qui joint l'intellect à la pratique, qui vous fait entrer dans l'intimité de l'autre. Connaître Christ, c'est entrer dans une relation, c'est partager avec lui, c'est se donner à lui, c'est vraiment partager, un partage réciproque avec celui qui nous a sauvés. L'apôtre Paul avait toutes sortes de mots très forts dans ce domaine. Il dira par exemple dans Philippiens 1:21, « Pour moi, vivre, c'est Christ. Vivre, c'est Christ. Ma vie tout entière est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon oxygène. Jésus-Christ est ma raison d'être. En dehors de lui, je ne peux pas vivre. Pour moi, vivre, c'est Christ. » Ou encore dans Philippiens 3, 8 à 10, j'ai fait allusion à ce passage. « Même je regarde toute chose comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Et il dira un peu plus loin, j'ai été empoigné par Jésus-Christ, littéralement empoigné, saisi par Jésus-Christ. Ainsi, l'église locale, c'est une famille de saints, d'hommes différents, séparés, uniques, mis à part pour Dieu, une famille de frères. Nous avons vu comment ils sont liés, comment ils ont été arrachés à la puissance des ténèbres, comment ils appartiennent au royaume des cieux. Et c'est une famille qui est centrée sur celui qui les a sauvés, sur celui qui vit, sur celui qui est entré dans leur vie par le Saint-Esprit. La même vie circule en chacun d'eux. Le même sang spirituel, la même sève circule dans chaque branche du même arbre, le même esprit demeure en chacun d'eux. Christ est leur vie. Alors il nous faut quand même aller vers la fin de cette étude. et soulignait qu'il y avait un problème dans l'église de Colosse. Et le problème dans l'église de Colosse apparaît dans le verset 23. « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner, sans vous laisser déporter, loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel. » Le problème dans l'église de Colosse, c'est que Christ était diminué. Il était amoindri. Jésus-Christ n'était plus sur le trône de l'église de Colosse. Il y avait des erreurs de doctrine et d'attitude qui s'étaient infiltrées. Et les membres de l'église de Colosse cherchaient ailleurs qu'en Jésus-Christ le secret de la paix intérieure, le secret de la plénitude. Ils étaient en danger. Oh, ils étaient bien organisés. L'apôtre Paul va les louer dans le chapitre 2 pour leur organisation. Si je suis absent de corps, verset 5, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. Le bon ordre. Mais l'ordre est insuffisant. Il y a de l'ordre généralement dans les cimetières. Ouais. Généralement, les tombes sont bien alignées. Et il y a des églises qui se conduisent comme des cimetières, n'est-ce pas? Alors ici, le problème, c'est qu'il y a de l'ordre, mais Jésus-Christ n'est plus à sa place. Jésus-Christ n'est plus au centre. Et nous ne pouvons pas parler de service réciproque dans l'église locale si Jésus-Christ n'est pas à sa juste place dans chacune de nos vies. Alors j'aimerais, en terminant, vous montrer comment Paul a su placer devant ses croyants, devant ses membres de l'église de Colosse, la beauté de la personne de Jésus-Christ. Terminons ce soir sur cette vision biblique de la personne de Jésus-Christ. Regardez dans Colossiens 1 et au verset 15. Colossiens 1, verset 15. Le Fils, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Je ne sais pas si vous avez vos cartes d'identité sur vous. Peut-être que si je vous demandais de me la montrer, vous seriez gêné. Si vous avez fait les photos... Dans certains endroits, on les fait très vite et où elles sont de mauvaise qualité. Maintenant, ça va mieux qu'avant. Hein? Mais il fut un temps où nous avions tous des têtes de forçats sur nos cartes d'identité. L'image. Et aujourd'hui, c'est vrai, on dit qu'il faut avoir une bonne image de soi. Un candidat à la présidence de la République, il doit donner une bonne image de lui-même. Même si c'est complètement contraire à ce qui grouille au fond de lui-même, n'est-ce pas? Alors, il faut bien comprendre le terme « image ». Le Fils est l'image du Dieu invisible. Est-ce que ça voudrait dire ce que je viens d'expliquer? Non, pas du tout. C'est un petit mot ici, parce qu'il y a d'autres termes qui peuvent être aussi rendus par « image ». Mais là, c'est un mot tout à fait particulier. D'ailleurs, il a été rendu en français par le mot « icône ». C'est donc un terme utilisé dans le domaine de la religion, lorsque on voit derrière une image quelque chose de magique, quelque chose de sacré, n'est-ce pas? Chez les orthodoxes, l'icône a beaucoup d'importance. Mais à l'origine, le sens était différent. Et le terme ici veut dire plus exactement que ce n'est pas une copie, la copie d'une peinture, par exemple. Mais c'est la peinture elle-même. C'est le tableau lui-même. C'est une représentation unique. Jésus-Christ est la représentation unique, exacte, dans le sens le plus absolu du terme, du Dieu invisible. Une petite image pourrait vous aider à comprendre. À Rome, dans un des nombreux palais de cette ville, se trouve une magnifique fresque. Tout comme dans la Sixtine, là-haut, au plafond, des plafonds très hauts, je ne sais pas si vous avez visité la Sixtine, je l'ai visitée et je vous assure que quand on visite la Sixtine, il vaut mieux ne pas avoir des problèmes de nuque. Alors dans ce palais, on a trouvé la solution. On a tout simplement installé un miroir au sol, avec des bancs tout autour. Et quand les gens veulent contempler ce qui est au plafond, ils s'assoient et ils regardent en bas. Et ils ont donc le reflet exact de ce qui est au plafond à leur portée. Et c'est exactement là, n'est-ce pas, le sens de cette image. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Dans l'Épître aux Hébreux, par exemple, au chapitre 1er et au verset 3, Hébreux chapitre 1er, verset 3, dans la présentation de Jésus-Christ, il est dit ceci, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance. C'est extraordinaire. Parce qu'il y a deux images là. Tout d'abord, Jésus-Christ est... Il est question de rayonnement, de rayons, n'est-ce pas? Les rayons, vous ne pouvez pas les dissocier du soleil. Ils font un avec le soleil. Et de la même manière que les rayons font un avec le soleil, Jésus-Christ fait absolument un avec le Père. Ça, c'était la première image. La deuxième, vous avez remarqué, l'empreinte de sa substance. Littéralement, c'est ça, l'empreinte de sa substance. C'est-à-dire qu'on fait appel à l'image d'un sceau. On fait un cachet avec de la cire. Et là, vous avez une petite différence, puisque l'empreinte d'un sceau est distincte de ce sceau. C'est-à-dire que dans cette image, à la fois, il nous est dit que Jésus est un avec le Père, comme le rayon est un avec le soleil, mais en même temps, il est distinct du Père, tout comme l'empreinte d'un sceau est distincte du sceau. Voyez la manière dont cette épître aux Hébreux est introduite. Celui qui m'a vu, a vu le Père, dira l'évangéliste Jean dans Jean 14, dans Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. L'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création, dit le texte de Colossiens 1, le premier-né de toute la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça voudrait dire que Jésus-Christ a été créé par Dieu? Le premier-né. Un premier-né, c'est l'enfant qui est né le premier, mais qui est issu de la vie d'un couple. Alors ici, il faut savoir que ça ne veut pas dire du tout cela. Il n'est pas le premier-né au sens littéral, comme le disent par exemple les témoins de Jéhovah. Tout simplement parce que dans les Écritures, le mot « premier-né » n'est pas toujours utilisé dans ce sens-là. Vous connaissez deux fils de Joseph, certainement. Est-ce que vous savez comment s'appellent les deux fils de Joseph? Hein? Éphraïm et Manassé. Je ne sais pas si j'ose vous poser la question suivante. Lequel des deux, d'Éphraïm et de Manassé, est le premier-né? C'est Manassé. Hein, ceci nous est dit dans Genèse 41, versets 51-52. Or, si vous connaissez votre Bible, vous savez que dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, le premier-né, c'est Éphraïm. Ah, comment se fait-il? Est-ce que c'est Manassé ou Éphraïm? Il faut savoir. En réalité, quand il est dit dans Jérémie 31, verset 9, qu'Éphraïm Et le premier-né, ça veut dire qu'il est le plus important. Et la tribu d'Éphraïm était la plus importante des tribus d'Israël. Elle était ce qu'on appelait la tribu proéminente. Une autre question. David, dans quel ordre familial vient-il ? Est-ce qu'il est l'aîné ? Il est le dernier, hein ? Le huitième. Le huitième. Il y en a un qui est mort très vite, parce que certains textes disent le septième, d'autres le huitième. Il y en a donc un qui a dû mourir très rapidement, le huitième. Or, dans le psaume 89, verset 28, il est dit « Je ferai de David, de lui, le premier-né ». Ah, comment ? Il est le dernier-né ou il est le premier-né ? Hein ? Le premier-né, et il est ajouté le plus élevé des rois de la terre. Et ça, c'est un texte qui annonçait la venue de Jésus-Christ, le fils de David. Donc, le mot premier-né dans la Bible n'est pas toujours utilisé, comme le disent les témoins de Jéhovah, pour parler de quelqu'un qui a été mis au monde en premier. Il est utilisé dans la Bible pour parler de quelqu'un qui est avant toute chose, qui domine, qui a la primauté, le premier en dignité, en excellence, en distinction, suprématie. Il a la primauté, il est le premier. Et il doit être le premier dans ma vie. Il doit être le premier dans la vie de l'Église local. Et nous pourrions ainsi continuer à développer ce texte, nous prendrions des heures, n'est-ce pas, quand il est dit après, tout a été créé par lui et pour lui, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Christ est le centre, le pivot de toute la création. Il est souverain absolu sur toute la création. Y compris sur la puissance des ténèbres, sur la création visible et invisible, sur toutes les puissances angéliques, bonnes et mauvaises. Il est le maître absolu de l'histoire. Il est celui qui dirige le cours des événements. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Voilà ce que dira le livre de l'Apocalypse. Et puis il est dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Il est le chef. Il est le chef. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas n'importe quel mot qui est utilisé ici. Notamment, ce n'est pas les mots qui sont utilisés dans le vocabulaire grec pour parler de quelqu'un qui abuse du pouvoir. C'est pour cela qu'il est dit la tête. Parce que pour que le corps fonctionne comme il faut pas que la tête et le cerveau maltraitent, hein, aillent dans n'importe quelle direction. Il est la tête de l'Église. Il est l'autorité indiscutable de l'Église. Il est à l'origine de l'Église. Sans lui, elle n'existerait pas. Aucun membre ne peut fonctionner sans la tête. Il est le contrôleur de l'Église. Il est le commencement de l'Église, hein, le commencement. Et le terme veut dire aussi le commandement. Il est celui qui commande l'Église. Est-ce que Jésus-Christ commande l'Église en Arles ? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui commande l'Église à Vauvert, à Istres et ailleurs? Est-ce qu'il est véritablement le commandement? Et s'il est le commencement et le commandement, l'Église peut être ballottée, elle peut souffrir, elle peut passer par la persécution, elle ne disparaîtra jamais. Sa réalité locale peut disparaître. Dans le début de l'Apocalypse, on voit Jésus-Christ glorifié qui marche au milieu des chandeliers d'or. Sept chandeliers. Les sept églises du début de l'Apocalypse. Éphèse, Laodicée, etc. N'est-ce pas ? Et il dit, Jésus-Christ glorifié, attention. Si tu ne changes pas de conduite, si tu ne reviens pas à ton premier amour, alors attention, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est-à-dire qu'une église peut disparaître, une église locale peut disparaître. Si Christ n'est plus au centre, si l'église se vide de son contenu spirituel, si on commence simplement à vivre des traditions, si on attache beaucoup plus d'importance au mur qu'à sa personne à lui, alors il arrive un moment où l'Église est rayée de la carte. Je suis d'origine protestante. Au fil de ces derniers temps, de ce dernier siècle, des dizaines et des dizaines de temples réformés et luthériens ont disparu, ont été vendus ou ont été démolis. Pourquoi ? Parce qu'on a cessé d'être centré sur la personne de Jésus-Christ, sur la parole de Dieu, d'annoncer le juste message. Alors les lieux se sont vidés, se sont réduits comme peau de chagrin, jusqu'au jour où on a fermé l'endroit. Alors, en conclusion, peut-être simplement ajouter quand même verset 19, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Toute plénitude. La plénitude la plus absolue. Dans Colossiens 2:10, il est dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Christ est le Dieu complet. Christ est le Dieu absolu. Christ n'est pas un petit Dieu, un mini-Dieu. Christ n'a besoin d'aucun complément. Vous êtes rempli en lui. En lui habite, par exemple, au chapitre 2, verset 2, 3, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Jésus-Christ est le coffre-fort de Dieu. Voulez-vous connaître Dieu ? Allez puiser en Jésus-Christ tout ce qui va vous permettre de connaître Dieu. Parce que quand vous voyez Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même que vous voyez. Quelle richesse! Quelle richesse! Et nous n'avons fait que parcourir très très vite un certain nombre d'éléments de ce passage pour que nous donnions à Jésus-Christ la place qui lui revient. Une église locale en bonne santé, une église locale féconde, c'est une église dans laquelle chaque membre est vraiment centré sur la personne de Jésus-Christ, uni intensément à Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a dit en parlant de l'Église, dans le seul chapitre où il parle directement de l'Église, en long, en large et en travers, où il donne les 7 particularités révolutionnaires de l'Église locale, Matthieu 18. Jésus dira, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, il y en a qui ont beaucoup de facilité à calculer, n'est-ce pas ? Et ils disent, ah bon, ça va, on est 2 ou 3, hein ? 1, 2, 3, ça va. Il est là, c'est l'Église. Je dis non. Je dis non. Je dis qu'on le dit trop vite, ça. Parce que le texte dit littéralement, là où 2 ou 3 sont assemblés, mais attirés vers ma personne. Le verbe laisse entendre, par la manière dont il est construit, par la préposition qui est devant lui, que ces personnes sont centrées, chacune personnellement, sur Jésus-Christ. Elles sont attirées vers Jésus-Christ, chacune pour sa part. Et parce que ces 2 ou 3 personnes, chacune, sont attirées personnellement vers Jésus-Christ, alors Jésus-Christ peut être là, au milieu de ce petit groupe qui constitue une toute petite cellule de l'Église de Jésus-Christ. Là où 2 ou 3 sont intégrés, pourrions-nous dire, en mon nom, je suis véritablement au milieu d'eux. Est-ce que c'est le cas pour nos vies d'Église ? Est-ce que nous sommes cet organisme révolutionnaire, comme nous l'avons vu ? Il n'y a ici ni grec, ni juif, etc. Est-ce que vous et moi, nous sommes centrés sur la personne de Jésus-Christ, celui qui suffit pleinement ? Alors, si cela existe à la base, nous comprendrons mieux demain notre étude sur l'approche du service des dons spirituels. Jésus-Christ va pouvoir servir à travers nous, par nous, parce qu'il est au cœur de notre vie. Christ est ma vie. pour moi vivre, c'est Christ, et la mort m'est un gain, disait l'apôtre Paul. Nous voulons prier. Nous te bénissons, ô notre Dieu, pour le miracle que représente ton Église, pour cette invention géniale, extraordinaire, que le diable a tout fait pour imiter, pour caricaturer. Nous te remercions, Seigneur, pour les changements en profondeur que tu as apporté à notre vie. Pour le jour où nous t'avons rencontré, où nous avons été arrachés à la puissance des ténèbres et transférés dans le royaume du Fils de ton amour. Tu nous as rachetés. Tu nous as déliés, délivrés, purifiés de nos péchés. Tu as donné le Saint-Esprit qui est venu dans notre vie, dans notre cœur, qui s'est emparé de notre personne. Tu nous as ouvert ta parole, elle est devenue compréhensible. Et puis tu nous as fait découvrir des frères et sœurs, tellement différents de nous par toute leur histoire, et pourtant tellement proches de nous à cause de ta personne. Seigneur, merci. Merci d'avoir fait de moi un membre de ton corps. Merci pour ton salut. Merci de m'avoir intégré à ton Église. Seigneur, visite-nous. Aide-nous à vraiment nous centrer sur toi, sur ta personne, telle que ta parole nous présente ta personne. Dans ta grâce, visite-nous. Tu connais nos besoins. Tu connais aussi certaines des divisions scandaleuses de ton corps. Tu connais parfois les haines qui peuvent opposer ceux qui pourtant s'appellent frères. Seigneur, garde-nous d'une fausse unité de façade politique, manœuvrière, mais aide-nous à vivre une véritable unité fondée sur ta parole, sur notre connaissance personnelle de toi et de ton Fils Jésus-Christ. Laboure dans nos vies, dans nos cœurs. Merci aussi d'avoir pu affirmer ce soir que ton Fils suffit pleinement dans nos vies. Merci de ce qu'il n'est pas un petit Dieu, un mini-Dieu. Il n'est pas ta première créature. Non. Merci de ce qu'il est avant toute chose. Il a participé avec toi à la création du cosmos, de ce monde. Et il soutient lui aussi avec toi toute chose. Il est souverainement élevé. Il domine sur les puissances visibles et invisibles, sur tous les chefs d'État, sur tous les potentats de ce monde. Il est dominateur total. Il contrôle complètement la puissance des ténèbres. Et je te remercie pour tout ce que cela signifie pour ma vie, pour notre vie, pour ton Église souffrante et persécutée, en particulier dans certains pays du monde en ce moment. Seigneur, merci. Nous te louons ce soir. Nous te bénissons. Cela nous fortifie dans nos combats, dans nos luttes, de pouvoir nous centrer sur toi. Seigneur, tu veux nous raccompagner maintenant. Tu veux préparer d'une manière toute particulière les rencontres de demain après-midi, de demain soir et de dimanche matin. Et continuer à labourer, à visiter, à changer nos mentalités, à nous aider à rectifier ce qui est faux et surtout à nous aider dans notre service réciproque. Aide-nous à être véritablement serviteurs les uns des autres. Ô Seigneur, fais-le. Merci pour ta grâce. En Jésus-Christ. Amen.